CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast qui vous raconte l'histoire de ces audacieux et emblématiques entrepreneurs à l'origine de fulgurantes réussites. Je suis avec Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Tu es économiste pour le cabinet Asterès et moi je suis donc Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média. Aujourd'hui, direction le Nord. Et j'espère que tu as pris ta parka car nous allons dans le fin fond de la Suède pour raconter l'histoire de cet entrepreneur déterminé et persévérant qui a bâti sa réussite en kit à partir de bois des forêts de sa région. Découvrons ensemble le parcours de Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors, Féodor Ingvar Kamprad est né le 30 mars 1926 dans le Småland, une région forestière du sud de la Suède, Sylvain.
Oui, en effet, c'est le fils de modestes agriculteurs, disons. Donc, très jeune, il travaille à la ferme dans un environnement assez austère. Sa famille, son père sont des gens assez conservateurs, assez austères, pas très rigolos, il faut le dire. Un peu froid, un peu cassant. Son père lui dit qu'il est bon à rien, qu'il réussira pas, etc. Donc, c'est pas un environnement, disons, très rigolo. Il travaille dur, donc à la fois à l'école, parce que c'est un bon élève. Il va arrêter très vite ses études, mais c'est un élève à la fois intelligent et travailleur. Et il travaille aussi à la ferme, donc il aide sur son temps libre, dès qu'il a des vacances le soir, il aide à la ferme, donc c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dès l'enfance, très dur.
Tu l'as dit, hein, c'est un bon élève, mais c'est pas dans les études qu'il va se réaliser. Lui, très tôt, il a une idée très fixe.
Oui, alors il est très ambitieux, il veut réussir, il veut gagner de l'argent, et dès l'enfance, comme tu l'as dit Mickaël, il commence par le commerce. Et il monte, il a 6-7 ans, enfin il est vraiment très jeune, il commence à monter un petit business de vente d'allumettes, donc il achète des allumettes à la ville, et il les revend donc dans sa région rurale auprès des agriculteurs.
Oui, parce que là en fait, il fallait qu'ils aillent très loin pour faire des courses, et donc lui, il faisait un peu le voyage pour eux.
Voilà, donc en fait, petit à petit, il va monter un petit business, une petite affaire de revente. Donc comme tu le dis, c'est une région très rurale, très reculée, on est encore dans les années 20, années 30, donc les transports sont encore très embryonnaires. Et donc, les paysans de la région, pour eux, c'est difficile d'aller faire leurs courses. Et lui, il le comprend très jeune. Et donc, son affaire naissante, son entreprise naissante, c'est d'acheter des produits en ville, en gros, les ramener sur son vélo dans sa région et de les revendre, bien sûr, avec une marge. Et donc, il fait ça dès l'enfance, en parallèle de ses études, en parallèle du travail à la ferme. Et petit à petit, alors, il commence avec des allumettes et puis après, il va vendre un peu des outils, un peu de l'alimentation, enfin, un peu de tout, en fait, tout ce dont ont besoin les paysans de sa région.
Oui, donc lui, ce qu'il veut, c'est évidemment devenir riche et il voit plus grand à partir de 17 ans. En 1943, il lance son entreprise.
Voilà, donc jusqu'à présent, avant ses 17 ans, c'était quelque chose de totalement informel, pas vraiment déclaré, sur des petits montants. Et quand il est adolescent, il va formaliser son activité, donc il va créer son entreprise. Et son entreprise, donc, il va s'appeler IKEA, donc de manière assez spontanée, puisque donc il avait une sorte de cabanon, je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de grange devant la ferme de ses parents. Et sur la porte de cette grange, il avait peint IKEA, donc I et K, c'est ses initiales, hein, Ingvar Kamprad. Et le E et le A, c'est le nom des localités. Donc, je serai incapable de prononcer en suédois.
Je vais essayer de le dire.
Vas-y.
Je les ai notés parce que aujourd'hui, je suis ambitieux, mais je ne suis pas sûr. Donc, c'est Elm Tarid. Donc, ça, c'est
voilà, pour le
lieu dit. Ouais. Et la commune s'appelle Angunnarid. Donc, on a compris, IKEA.
Voilà, IKEA. Donc, ses initiales et en fait, les initiales de son adresse. Et donc, il peint ça sur sa grange et ça deviendra le nom IKEA.
Donc, c'est pas un garage en Californie cette fois-ci, voilà, c'est une grange en Suède.
Voilà, c'est une grange en Suède. C'est un peu le même concept, mais vu qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de voiture, hein, on est en pleine guerre, dans une région très reculée. Donc, il n'y avait pas de garage, mais il y avait des petits entrepôts, des cabanons, je ne sais pas comment appeler ça, dans lequel il stockait les marchandises qu'ils revendaient.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, au début, ils ne vendent pas du tout de meubles.
Voilà, donc
plein de choses, mais pas de meubles.
Au début, ils vendent un peu de tout, hein, des outils, tout ce dont peuvent avoir besoin les agriculteurs, des semences, enfin un peu tout et n'importe quoi, mais pas de meubles, puisque les meubles, bah, c'est volumineux. Au début, il faisait ça avec son vélo, hein, donc il ne pouvait pas vendre des meubles. Et il va commencer à vendre des meubles, donc un peu par hasard, parce qu'il essaie un peu différents types de produits. Donc après la guerre, hein, là on est à la fin des années 40, et en fait les meubles vont extrêmement bien marcher, si bien qu'en quelques années, il va ne faire plus que des meubles. puisque ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, les paysans de cette région-là, l'offre de meubles qu'ils avaient à disposition, elle était extrêmement limitée. Donc il fallait qu'ils aillent en ville loin, chercher leurs meubles, ce qui n'était pas facile puisque la plupart n'avaient pas encore de voiture. Et les meubles qui leur étaient proposés, c'était des meubles, disons, bourgeois, assez haut de gamme, chers et pas forcément très pratiques pour la vie à la ferme. Et donc, en fait, il y avait une demande de meubles, puisque bien sûr, ces paysans-là voulaient aussi avoir des meubles, mais il n'y avait pas d'offre qui correspondait à cette demande. Et lui, il l'a très vite compris. Il a très vite compris que ces paysans dans sa région avaient besoin de meubles pas chers, rustiques et pratiques. Et donc en fait, dès le début, ce qui fera la réussite d'IKEA, c'est-à-dire le meuble pas cher, pratique et rustique, il va comprendre qu'il y a une demande pour ça et il va lancer son entreprise uniquement sur ce segment-là.
Oui, donc au début, c'est vraiment la base du succès d'IKEA, c'est vraiment parce qu'il a compris ce qu'avaient besoin les gens qui étaient autour de lui dans cette petite région en Suède.
Oui, c'est exactement ça, c'est juste, il comprend qu'il y a une demande, un besoin qui n'est pas satisfait par l'offre existante sur le marché de l'immeuble, et lui, il y répond, et ça marche bien, hein, son entreprise se développe rapidement.
Et dès le début, il a une idée aussi qui est intéressante et qui va rester dans le succès d'IKEA, c'est un catalogue pour présenter ses produits.
Voilà, donc le catalogue, il date même dès avant les meubles. Dès qu'il lance son entreprise, quand il est encore lycéen, il fait son premier catalogue donc, où il présente ses produits, puisque au début c'est surtout de la vente à distance, hein, il n'a pas de magasin physique, il a sa grange où il stocke ses produits, puis après il va en vélo voir ses clients, donc il leur laisse un catalogue. Et bien sûr, après ce catalogue va rester, il va devenir le catalogue IKEA, qui est connu dans le monde entier, qui a des millions, peut-être même des milliards d'exemplaires diffusés, certains disent presque autant que la Bible. Enfin, c'est vraiment le catalogue IKEA fait partie vraiment de l'âme de l'entreprise IKEA.
Et rapidement, il va créer son premier magasin.
Voilà, donc au début, il commence par vendre ses meubles à distance et il se rend compte que en fait, les clients ont aussi envie de voir les meubles, de les toucher. Et donc, il va créer son premier magasin de meubles donc dans sa région natale, sa région rurale. Et ce qu'il fait tout de suite, et là, on voit déjà le futur d'IKEA, c'est qu'à côté du magasin, il met un hôtel avec un petit restaurant pour que les gens puissent dormir. Donc, évidemment, dans un hôtel meublé IKEA pour qu'ils puissent voir les meubles dormir dans les lits IKEA, voir les armoires IKEA, les étagères IKEA, etc. Et il comprend que le magasin ne doit pas être seulement un lieu d'achat où on vient, on achète son meuble, on s'en va, mais un lieu où on vient, où on a l'impression de voir les meubles comme si on était chez toi et on a envie de rester. Et on voit aujourd'hui IKEA, vous avez notamment les restaurants avec tous ces plats fins, ces plats suédois, etc. Donc il y a dès le début un peu cette idée de concevoir le magasin comme un lieu de vie, plus que comme un lieu uniquement de vente.
Et il a compris aussi que l'achat de meubles, ça pouvait prendre un peu de temps, et il fallait qu'il prenne le temps.
Voilà, c'est-à-dire que le meuble, après, fait partie de l'environnement de vie intime des gens, et donc on n'achète pas forcément un meuble comme on achèterait d'autres produits qui restent plus à l'extérieur de la vie. Et donc c'est pour ça que les magasins IKEA, d'ailleurs dès le début, les meubles sont mis un peu en situation comme si déjà on les voyait dans sa propre chambre, dans sa propre cuisine. Il y a vraiment cette idée de créer une atmosphère où on se sent presque chez soi dans le magasin, en fait, hormis la foule, bien sûr.
Une autre évolution d'IKEA, ça va arriver grâce à un des premiers employés d'IKEA, qui est un designer. Cette invention, ça va être pour beaucoup dans la réussite de ce géant du meuble.
Voilà, donc c'est, évidemment, Michael, tu veux parler du meuble en kit.
Exactement.
Donc c'est pas une idée d'Ingvar Kamprad, c'est effectivement un de ses premiers employés qui devait livrer une petite table avec des grands pieds. Et donc ça faisait un paquet absolument gigantesque. Et il se dit, mais c'est vraiment bête d'avoir un paquet aussi gros pour une table aussi petite et aussi légère. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dévisse les pieds. Il les colle au plateau, il fait un paquet 10 fois plus petit et il le livre comme ça. C'est totalement spontané, en fait. C'est pas du tout quelque chose de réfléchi où Ingvar Kamprad s'est dit, tiens, je vais inventer le meuble en kit. C'est vraiment né sur le tas. On s'est rendu compte que c'était plus pratique. Et en fait, ça a très bien marché, puisque un meuble en kit prend 8 fois moins de place qu'un meuble monté. Donc, en termes de livraison, c'est beaucoup plus facile. Ça se casse pas, déjà, quand c'est en kit, contrairement à quand c'est monté, où il faut faire très attention. Donc, la livraison est beaucoup moins chère et beaucoup plus facile. Alors après, le client est mis à contribution pour remonter le meuble, mais en fait, ce qu'on a remarqué de manière un peu paradoxale, c'est que c'est pas forcément un frein, puisque quand les gens montent eux-mêmes le meuble qu'ils ont acheté, et ben d'un côté, ils s'approprient ce meuble, et c'est un peu comme s'ils jouaient au Lego, en fait.
C'est exactement ça, j'allais te dire, ça fait penser à l'histoire de Lego.
Ça fait un peu penser à Lego, c'est-à-dire que c'est un peu du Lego pour les grands, et on pourrait se dire, en fait, ça va pas marcher, parce que le client, il doit travailler en plus, il a pas envie de travailler, le client, il veut son produit fini, et en fait, non, il y a un petit côté bricoleur, un petit côté Lego, qui fait qu'en fait, ça marche très bien. Donc non seulement il casse les coûts sur la livraison, la logistique, mais en plus, ça ne freine pas forcément la clientèle. Donc c'est vraiment un pari gagnant qui est né comme ça, et en fait, très vite, ils vont l'adapter à tous leurs meubles et à tout leur système IKEA.
L'origine de premier meuble en kit, donc c'est en 1956, et cet employé, c'est Gillis Lundgren, je
voilà, le dis au cas où. Un des premiers employés d'IKEA, un des premiers designers.
C'est quand même un truc de fou, et derrière, évidemment, c'est les 30 Glorieuses, donc c'est l'ascension de la société, quoi.
Voilà, donc on est dans les années 50-60, donc en Suède, comme en France, comme dans toute l'Europe, il y a une croissance économique très forte, une croissance démographique, donc les gens quittent les campagnes pour les villes, avec des familles plus nombreuses, des maisons plus grandes, et donc évidemment, il faut se meubler, et donc il y a une très forte demande de meubles, et Ingvar Kamprad comprend cette demande, comprend qu'il y a un marché en croissance à saisir, et qu'il ne peut pas juste rester dans sa campagne, il pourrait, mais qu'il y a un marché beaucoup plus grand à saisir, à l'échelle de la Suède. Et donc, il ouvre son premier magasin IKEA donc à Stockholm, qui, en fait, ressemble un peu au magasin qu'on connaît aujourd'hui. Donc, un très grand magasin, organisé un peu comme si on était chez soi et comme si on passait de pièce en pièce, comme aujourd'hui les magasins IKEA. Il y a un petit parcours.
Oui, c'est innovant sur le parcours client, voilà, en fait.
On passe de la chambre à coucher au salon, etc.
On est même obligé de passer par tous les endroits.
On est obligé. Alors, il y a des petits courts-circuits où on peut éviter, mais ils sont pas très visibles. On est vraiment incité à faire tout le parcours. Et d'ailleurs, le premier magasin IKEA de Stockholm, a une forme un peu de ronde, en fait, arrondie. Le magasin est arrondi pour, en fait, dans l'architecture, pour faciliter ce passage d'une pièce à une autre. En fait, l'architecture est pensée pour avoir ce parcours. Alors maintenant, il n'y a plus cette forme ronde, mais on a gardé l'idée du parcours.
Et ce premier magasin, donc, qui est ouvert à Stockholm en 1965, donc c'est un magasin qui est innovant et qui est aussi un peu innovant sur la manière de le financer parce qu'il va le faire sur ses fonds propres.
Oui, alors c'est un risque énorme. Lui, il veut garder le contrôle de son entreprise. Donc IKEA n'est toujours pas coté en bourse. C'est-à-dire que c'est toujours lui et bon, ses descendants, puisque maintenant il est décédé, mais c'est toujours il a toujours voulu garder le contrôle de son entreprise.
À
100%. Et donc quand il ouvre ce premier magasin à Stockholm, c'est un risque énorme. Il y met énormément d'argent, il s'endette. C'est qui tout double. Hein. Si le magasin plante, il est ruiné. Il veut pas faire rentrer d'actionnaires extérieurs pour garder le contrôle. Ça a toujours été un choix qu'il a fait. On peut penser à Lego, il y a d'autres entreprises comme ça qui ont toujours voulu garder le contrôle. Et ça a marché. Le chiffre d'affaires de ce premier magasin est deux fois plus élevé que ses attentes. Il y a des heures de queue.
Enfin, c'est un succès fulgurant.
Voilà, les gens font la queue pendant des heures à l'entrée. Et donc, à partir de là, bah, bien sûr, il va répliquer ce modèle dans toute l'Europe et dans le monde entier.
Oui, c'est ça, il va s'ouvrir à l'international. La première ouverture, c'est pas loin, c'est à Oslo.
Voilà, donc il commence d'abord par la Norvège, et ensuite, très rapidement, il s'agrandit dans toute l'Europe et même ailleurs dans le monde entier, avec toujours la même stratégie qui est peu de magasins, mais des très grands magasins. Plutôt que d'avoir plein de petits magasins dans toutes les petites villes, il a quelques très grands magasins dans les principales métropoles pour avoir, alors déjà, moins de frais logistiques, et pour que, en fait, chaque magasin... et une très grande diversité de produits. C'est-à-dire qu'on va chez IKEA, on est sûr de trouver ce qu'on veut. Et du coup, les gens sont prêts à faire beaucoup de kilomètres. Hein. Moi, je viens de la province, il y a des gens, ils font 2 heures de route pour aller chez IKEA, ils y vont pour la journée, puisqu'il y a le restaurant, il y a un peu des jeux pour les enfants, etc. C'est ce qu'on a expliqué, c'est l'idée d'IKEA où on ne va pas seulement acheter, mais on va passer un moment. Et donc, voilà, comme ça, avec peu de très grands magasins, souvent en banlieue, même si à Paris, il en a ouvert un... IKEA a ouvert un magasin à la Madeleine, ce qui est une nouveauté, la première fois qu'IKEA s'implante en centre-ville. Mais cette stratégie qu'il a conservée, qui a très bien réussi, de quelques très grands magasins en banlieue, où on vient même de très loin, on vient pour la journée, on vient faire ses courses à IKEA, comme on irait faire une sortie au cinéma ou je ne sais où.
Dans le monde, c'est environ 400 magasins, pas plus, hein, qu'il y a. Et en France, c'est
une grosse trentaine,
quelques dizaines de magasins
35 à peu près,
qui existent. En tout cas, donc, cette stratégie est intéressante. Et à l'intérieur de ces magasins, il va quand même garder le lien avec son pays d'origine, avec la Suède. Il faut qu'on ait la culture suédoise à l'intérieur du magasin.
Oui, alors... Il a toujours été très attaché à cette culture suédoise. Tous les produits IKEA ont des noms suédois qu'on ne sait jamais comment prononcer. En général, il prend le nom d'un ruisseau, d'un village, ou enfin un nom suédois comme ça qui lui passe un peu par la tête. Il y a ce restaurant suédois avec des produits suédois, là aussi, au nom imprononçable. Il a vraiment gardé cet ancrage suédois qui fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Et aujourd'hui, la Suède, c'est un peu IKEA, et IKEA, c'est la Suède. On associe vraiment les deux de manière très forte. Je crois même qu'il y a un épisode des Simpsons là-dessus où les Simpsons vont... alors, ça s'appelle pas IKEA, mais on comprend que c'est IKEA. Et la Suède, c'est vraiment IKEA. D'ailleurs, les couleurs d'IKEA, hein, jaune et bleu, c'est aussi les couleurs de la Suède.
Mais contrairement à son attachement à ce pays qu'il veut communiquer à travers ses magasins, bah, la stratégie fiscale, elle n'est pas trop suédoise.
Oui, alors... Ingvar Kamprad, c'est un entrepreneur, il veut réussir et il n'a pas forcément énormément de scrupules pour réussir. Il y a eu une stratégie, quoi, une stratégie disons de ressources humaines assez agressive, hein, les salariés sont quand même là pour travailler et pas pour rigoler. Il va installer son entreprise fiscalement aux Pays-Bas parce que c'est plus avantageux, et c'est quelqu'un, on peut dire, de radin, qui le revendique presque, hein. Il garde sa vieille voiture Volvo, il garde ses vieux habits, il n'est pas du tout le milliardaire bling bling avec des yachts, des jets privés, etc. Il rogne sur toutes les dépenses, que ce soit personnelles ou dans l'entreprise. Et donc ça fait partie du personnage et du caractère du personnage, un peu gripsou, un peu avare, il faut le dire.
Et même les meubles, à la fin, ils sont quasiment plus fabriqués en Suède.
Oui, alors effectivement, ça c'est pas que Ikea, le marché du meuble en général, c'est énormément la Chine. Et donc bien sûr, au début, les meubles étaient fabriqués en Suède, notamment dans la région d'où il vient, qui était une région forestière où il y avait beaucoup de bois. Mais très rapidement, les meubles ont été fabriqués en Asie, en Chine ou en Europe de l'Est. Mais ça, c'est pas propre à Ikea, c'est vraiment l'ensemble du marché du meuble, hormis le meuble un peu de luxe. C'est la même chose dans le vêtement. Dans le vêtement, il y a un peu de luxe qui est resté en Europe, et puis la très grande majorité a été délocalisée en Asie.
Oui, donc son but, c'est quand même, son credo, c'est quand même de dépenser pas beaucoup pour lui, mais aussi pour ses clients.
Oui, alors il a une stratégie clairement de cassage de prix. On va chez Ikea parce qu'il y a un prix bas, un meuble facile à monter, qui s'adapte à peu près à toutes les maisons et avec un prix très attractif. Donc c'est une stratégie grand public de prix bas, clairement, hein, de grande distribution. Il s'adresse aux classes moyennes, aux classes populaires. C'est pas du tout un marché de niche sur quelques clients privilégiés.
Mais il y a quand même des scandales autour d'IKEA, notamment en 1994.
Oui, alors Ingvar Kamprad a été très critiqué pour son attitude pendant la guerre, donc il était encore adolescent, mais il y a eu effectivement des journalistes suédois qui ont ressorti des documents historiques sur lesquels il aurait été très proche des jeunesses hitlériennes. Alors il vient d'une famille très conservatrice, ses parents, ses grands-parents étaient clairement des sympathisants nazis d'extrême droite, et lui aussi, quand il était jeune, visiblement a été proche des milieux des jeunesses hitlériennes suédoises, ce genre de mouvement-là. Après, il s'en excusait, il a dit que c'était une erreur de jeunesse.
Oui, il s'en cache pas vraiment, il s'en excuse plutôt.
Voilà, donc c'est quelqu'un de très discret, hein, qui n'a jamais trop parlé de sa vie privée, mais effectivement, quand le scandale a éclaté, il a pris la parole publiquement, il a un peu mis ça sur le compte. Il n'a jamais été un grand militant, il n'a jamais combattu pour le régime nazi, mais il a admis que, un peu comme une erreur de jeunesse, liée aussi à son milieu personnel, qu'il avait eu des sympathies d'extrême droite quand il était adolescent.
Donc il y a une vraie culture autour d'IKEA, mais il y a aussi des dérapages. On a vu notamment des dérapages en France avec l'histoire de la surveillance des salariés.
Oui, récemment.
Donc, donc du coup, il y a quand même une sorte d'ambivalence autour d'IKEA, quoi.
Oui, donc c'est une marque qui d'un côté est très sympathique. Beaucoup de gens aiment bien aller chez IKEA. Presque tout le monde, je pense, chez soi, a au moins quelques meubles IKEA. Je dirais un peu comme beaucoup de grandes réussites, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc il a voulu toujours casser les coups, évidemment, du coup, c'est des stratégies d'optimisation fiscale agressives, c'est des stratégies salariales aussi agressives sur la fabrication des meubles dans les pays les moins chers possibles, etc. Donc il y a aussi cette face-là du succès d'IKEA qui est un peu moins sympathique, disons, que le côté suédois où on a des meubles au nom exotique, etc.
Chaque fois, la marque derrière s'excuse et met en place des opérations pour redorer un peu son blason.
Oui, comme toutes les marques, elle est très soucieuse de son image. Et on voit souvent dans le métro, dans les médias, des campagnes de pub pour IKEA pour essayer de garder ce côté un peu de la marque. La marque sympathique, pas chère, les jeunes, les classes moyennes peuvent facilement se meubler chez IKEA. C'est un peu le créneau qu'ils essaient de conserver et de promouvoir.
Ingvar Kamprad décède en 2018. C'est presque tout le pays qui est en deuil.
Oui, c'était une des personnalités les plus connues de Suède. Je pense que si on demande à n'importe qui dans la rue, citez-nous des entreprises suédoises. Je pense... Alors Ingvar Kamprad, le nom est peut-être moins connu, mais en tout cas, tout le monde citera IKEA dans les premières. Et oui, c'était une personnalité très, très connue en Suède du monde des affaires suédoises, même s'il avait beaucoup habité à l'étranger, là aussi pour des raisons fiscales. Et son entreprise, donc on l'a dit, a changé un peu de stratégie très récemment avec l'ouverture d'un premier magasin en centre-ville à Paris, à la Madeleine. Ce qui est intéressant, hein, puisque jusqu'à maintenant, c'était vraiment une stratégie de grands magasins en banlieue. Et là, il y a une petite évolution dans la stratégie d'entreprise. Donc ça va être intéressant de voir comment la stratégie va évoluer, et puis aussi avec la hausse des ventes en ligne. Est-ce que ces grands magasins vont continuer à être aussi pertinents? Donc ça va être intéressant.
C'est peut-être une des réponses, justement, le petit magasin pour lutter la vente en ligne.
Peut-être, plus petit magasin, plus en centre-ville, pour contrer la vente en ligne. Ça peut être une stratégie. Ça va être intéressant de voir comment IKEA va évoluer.
En tout cas, Ingvar Kamprad nous aura prouvé que parfois les idées les plus simples sont aussi les plus efficaces et qu'à base de travail, de persévérance et d'innovation, le succès est presque à la portée de tous. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
On vous donne rendez-vous dans 15 jours sur votre appli de podcast ou alors sur cdipodcast.com pour un nouvel épisode. Et on vous dit à très vite.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.